Lydiane Guenat.
Bonjour, fin de la saga Novak Djokovic. La sentence est tombée, le Serbe ne disputera pas l'Open d'Australie de tennis qui démarre la nuit prochaine. L'affaire qui dure depuis son arrivée sur le territoire le 5 janvier a pris fin aujourd'hui avec la décision de la Cour fédérale australienne. Les précisions de Margot De Agostini.
Novak Djokovic devra attendre avant de remporter son 21e titre du Grand Chelem. Le joueur de tennis serbe n'a pas eu gain de cause et vient de perdre la bataille judiciaire face au gouvernement australien. Il doit faire ses valises et quitter le pays. Pour rappel, le numéro 1 mondial n'est pas vacciné contre le Covid-19 et a vu son visa être annulé à double reprise. Le Serbe représentait un risque sanitaire selon les autorités australiennes. Novak Djokovic a pourtant fait recours, mais la Cour fédérale a tranché aujourd'hui en sa défaveur. Le tenant du titre de l'Open d'Australie a alors déclaré qu'il était extrêmement déçu, qu'il respecterait cette décision et qu'il allait prendre du temps pour se reposer et récupérer. Nole sera donc remplacé dans le tableau masculin par un lucky loser qui prendra sa place.
À noter que les deux Suissesses Belinda Bencic et Jill Teichmann entreront en lice cette nuit à l'Open d'Australie. Elles affrontent respectivement la Française Kristina Mladenovic et la Croate Petra Martic. Les slalomeurs ont pris la place des spécialistes de vitesse à Wengen en Coupe du Monde de ski alpin. La première des deux manches du slalom prévue dans les Alpes bernoises s'est déroulée ce matin. Le meilleur Suisse Ramon Senhuysen pointe au quatrième rang, 62 centièmes derrière le plus rapide, le Norvégien Henrik Kristoffersen. Avant le second passage à 13h30, la Suisse peut espérer cueillir son premier podium de l'hiver dans la discipline. Les précisions de notre envoyé spécial Hugo da Custodia.
Avec son dossard numéro 1, Henrik Kristoffersen a profité d'une piste parfaite pour établir le chrono de référence en 51 secondes et 27 centièmes. Rapidement dans le bain, avec le 4 sur le dos, Ramon Senhuysen s'est accroché pour rester à une distance raisonnable. Il pointe à 62 centièmes du leader et à peine à 4 centièmes du podium. Manuel Feller et Sébastien Fosse-Sellevaag sont intercalés entre le premier et le haut valaisan. Seule élimination notable, celle du co-leader du classement mondial de la discipline, le Suédois Christopher Jakobsen. Le slalom de Wengen est à peine moins serré que celui d'Adèle Bodden la semaine dernière. Pour rappel, les 30 premiers se tenaient en 1 seconde et demie au terme de la première manche. Cette fois, la qualification s'est jouée autour des 2 secondes, ce qui a permis à 7 Suisses au total de valider leur ticket pour le deuxième tracé. Outre Senhuysen, on retrouvera donc Juul, Neff, Schmidiger, Ernie, Meillard et Marc Rocha au départ cet après-midi. Les deux derniers cités auront d'ailleurs de bonnes chances d'effectuer une belle remontée au classement. Avec l'arrivée du soleil, les conditions de la piste pourraient évoluer rapidement, de quoi avantager peut-être ceux qui s'élanceront en premier. On l'aura compris, la lutte pour le podium reste ouverte.
Et le départ donc de la deuxième manche de ce slalom de Wengen sera donné à 13h30. Rester invaincu en 2022, c'est l'objectif du HC Bienne qui se déplace cet après-midi à Lugano à 15h45 en National League de hockey sur glace. Les Célandais restent sur 2 victoires en 2 matchs en ce début d'année, mais ils devront surtout être remis de leurs émotions après le match complètement dingue vécu contre Berne mercredi dernier, une victoire improbable 8-7 après prolongation. Le capitaine biennois Gaëtan Haas disait qu'il n'avait jamais vu ça en carrière professionnelle. L'attaquant espère que son équipe ne commettra pas les mêmes erreurs que face à Berne. On écoute Gaëtan Haas.
Je pense qu'on va aller dimanche dans un match à Lugano où on a 3 heures de quart en se disant qu'il va falloir défendre avant d'attaquer et être solide derrière avant de regarder vers l'avant. Donc ça peut nous servir d'avoir un match comme ça pour le match de dimanche.
La focale va être pas mal mise sur le boxplay parce que c'est peut-être là aussi vous avez été le moins bon.
Ouais, alors je pense pas qu'il y a que le boxplay, il y a beaucoup de choses qui ont été pas bonnes. Au contraire, après j'ai envie de dire que le powerplay a été plutôt bon par rapport aux dernières sorties. Donc c'était un match spécial, il faut pas qu'on s'attarde trop dessus. On sait qu'on a fait des conneries, on en a parlé pendant les tiers et demain un autre jour.
Lugano HCBN, un match à suivre en direct dès 15h30 sur RGB avec Damien Piscopiello. L'occasion pour les Célandais, toujours quatrième, de se rapprocher du podium. Le volleyball Franche-Montagne a rendez-vous avec la Coupe de Suisse cet après-midi. Le VFM se déplace à Lucerne à 16h pour les huitièmes de finale de la compétition. Les filles de Leonardo Portaleoni sont sixièmes de Ligue A et partent favorites de cette rencontre. Leur adversaire évolue un échelon plus bas en Ligue B et occupe le cinquième rang dans cette catégorie. Et Nido volait face à l'histoire ce dimanche en Coupe de Suisse. Le club célandais de première ligue masculine de volleyball va défier Amrisville cet après-midi en huitième de finale, ni plus ni moins que le leader de la Ligue nationale A. C'est la première fois de son histoire que Nido va défier un club de l'élite, mais la fête sera malheureusement moins grande qu'espérée puisque le match se jouera sous 2G+, comprenez guéri ou vacciné plus testé. Malgré ces contraintes, le président du club et aussi joueur Luca Guiguer a des étoiles plein les yeux dans l'attente de cet événement.
Oui, c'est assez fou ce qui nous arrive là, de jouer contre une équipe de Ligue Nationale A, surtout que c'est le leader actuellement. Et ouais, moi, j'en rêve tous les soirs. Mais en tant que président, c'est vraiment assez fou parce que c'est vraiment une visibilité qu'on a avec le club qui est vraiment très intéressante. Et puis en tant que joueur, ouais, de jouer contre des personnes qui jouent professionnellement au volley, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Et bah, c'est justement ce dimanche que je vais jouer ça. L'exploit, il est toujours dans la tête, mais après, bah, c'est assez... vraiment un niveau au-dessus, et c'est des professionnels, donc c'est des personnes qui s'entraînent tous les jours, et nous, on n'est pas forcément comme ça, mais après, on a quand même des bons joueurs qui ont joué dans des ligues plus hautes, et bah voilà, au moins prendre un set, où ça serait déjà un exploit, mais gagner le match, ça va être vraiment compliqué, et juste jouer ce match, c'est déjà exceptionnel.
Nido, club de première ligue face au leader de la Ligue à Amrisville, coup d'envoi cet après-midi à 16h à la Beundenhalle de Nido. Dans l'actualité régionale, ils passeront 40 jours en test au haras national d'Avenches. 15 étalons Franche-Montagne ont été retenus hier lors de la sélection nationale qui s'est déroulée à Glovelier pour participer à la phase finale de l'approbation des chevaux reproducteurs. La première marche du podium est occupée par Léo qui appartient à Mario Gandolfo de Cornol. La deuxième place est revenue à Fox, élevé par Pierre Collère de Bellelay, et la troisième à Nike, dont le propriétaire est José Metti de Saint-Ursanne. Le jury a salué la bonne qualité de cette volée 2022, comme l'explique la gérante de la Fédération suisse du Franche-Montagne, Pauline Quelot.
Le jury est particulièrement content du fait que les éleveurs ont bien compris quel est le type de Franche-Montagne qu'on recherche, que la Fédération souhaite avoir. Et ça, c'est quelque chose de très positif. Et puis, ils sont en particulier satisfaits du type. Ils ont vraiment accentué le fait que le type Franche-Montagne était bien présent, et ça, c'est très bien.
Et puis par rapport au premier, peut-être, qu'est-ce qu'il a pu faire la différence par rapport aux autres ?
Alors le premier est vraiment un excellent cheval. En particulier, il a de très belles allures. C'est peut-être ça qui a fait la différence. Le type, la conformation sont aussi très bons. Et puis c'est un cheval qui se déplace très bien, qui bouge très bien. Je pense que c'est ça qui a fait la différence.
Des propos recueillis par Alexandre Rosset. Les 15 candidats sélectionnés doivent donc désormais se préparer pour le test en station au haras national d'Avenches. Ce dernier démarrera le 24 janvier et la finale est-elle agendée au samedi 5 mars. Imagineige est de retour à La Chaux-de-Fonds. Le concours de sculpture sur neige a débuté vendredi soir dans la métropole horlogère et se termine en ce moment. L'année dernière, les organisateurs avaient dû adapter leur concept à la pandémie. Les participants avaient été invités à réaliser une sculpture dans leur jardin privé tout au long de l'hiver. Mais cette année, le public peut à nouveau admirer une galerie à ciel ouvert dans les parcs du centre-ville. 8 équipes participent. Reportage en plein processus de création avec Grégoire Pernoux, l'un des membres de l'association Imagineige.
Antoine, ce que tu pourrais faire, c'est tailler un peu, prendre la petite pioche si t'arrives, puis tailler un peu les pieds.
Ça va, c'est dur.
C'est très dur, vraiment. À part ça, c'est de la neige hyper compacte, très mouillée, glacée, mais on y arrive.
Donc ici, c'est l'équipe Oratory's Crew qui travaille, c'est ça?
Exactement, exactement.
Et puis c'est quoi le principe de cette œuvre alors ?
Alors le principe de cette œuvre, on s'est un peu adapté en fait au tas de neige que la ville nous a gentiment amené, qui est la très belle neige blanche qu'on voit là-haut. La neige qui est ici en bas, c'est ma foi la neige qui a été déneigée habituellement, donc elle est un peu moins jolie. Et puis au départ, on était parti sur une île déserte, mais le concept était peut-être un peu difficile à réaliser. Et puis on a pensé après à l'île mystérieuse de Tintin. Et on s'est dit, ah bah tiens, sur cette île, on faisait pousser des champignons. Et puis voilà, ils sont là.
C'est sympa parce qu'il y a plein d'enfants là, on voit qu'ils participent, ils peuvent chacun s'occuper de leurs petits champignons personnels.
C'est ça, exactement. Et puis, non seulement ils peuvent s'occuper de leurs champignons personnels, mais aussi, si nous on en fait, les adultes en font un plus gros, bah après les enfants peuvent venir derrière pour un peu améliorer les formes, leur mettre, leur rajouter des lapins, des oreilles, enfin tout ce qu'on veut quoi.
Là-bas, sur le gros champignon, il y a un renard. Après, ici par terre, il y a un lapin. Et après, il y a un grand hibou qui est là pour voilà.
Il surveille la forêt en fait.
Ouais, il surveille la forêt.
Ça donne une sculpture assez monumentale ici au final.
On a visé un grand, peut-être un peu trop grand d'ailleurs. On aurait peut-être dû se contenter d'aller là-haut et puis ça serait allé très bien. Après l'idée, voilà, c'est toujours un peu imaginaire dans la ville, ben, faut que ça fasse un peu, faut que ça se voit quoi, faut que ça soit un peu mastoc si on veut bien pour que ça ressemble à quelque chose, sinon ça reste un tas de neige.
Bon, on va aller voir une ou deux autres alors, comme ça on va pouvoir comparer un peu tout ça.
Là on est chez les pros, là ça rigole plus là. Salut, salut!
Ou les pros, les vieux pros. Non, non, mais...
Qu'est-ce que vous nous faites cette année?
Vous connaissez pas quelque chose? Ça vous dit pas quelque chose?
Alors là, comme ça, franchement, j'hésite entre un chameau couché, un sous-marin.
Ça devra être un chameau ou une chamelle.
Ouais, on voit déjà bien les deux bosses, en tout
ouais,
cas.
Ouais, les deux bosses, ouais, ouais. Bon, quand on veut construire, il faut tout de suite arroser, faire un mélange avec de l'eau, parce que... Bon, quand il y a le soleil, là, ça se détend un petit peu, puis on a pu... récupère un peu de la neige dans le pré là-bas, mais sinon c'est dur.
Vous faites les bras comme ça?
Les bras et puis, ouais, puis le moral.
Bah bon courage encore alors.
C'était un reportage de Aude Raimondi. Les visiteurs peuvent encore aller admirer les œuvres cet après-midi dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. À noter que cette année, les organisateurs ont abandonné le concept de concours. Il n'y aura pas de lauréat, c'est juste pour le plaisir de participer. Ignacio Cassis se prépare à rencontrer le nouveau chancelier allemand Olaf Scholz ce jeudi à Berlin. Le président de la Confédération veut œuvrer au déblocage des relations bilatérales avec l'Union européenne, selon la presse dominicale. Il rencontrera aussi le président du pays, Walter Steinmeier. Les deux hommes évoqueront des questions bilatérales telles que la lutte contre la pandémie et l'engagement des deux pays aux Nations Unies. Des dégâts matériels importants sont constatés aux îles Tonga dans le Pacifique. Hier, la puissante éruption d'un volcan a provoqué un tsunami. Aucun blessé ou mort n'a été signalé. Des vagues de 1,2 mètre de haut ont ensuite atteint le Japon, le Chili et la côte ouest des États-Unis. Et l'onde de choc de l'éruption a même atteint la Suisse hier soir, indique Meteo News sur Twitter. Une variation nette et très brève de la pression a été enregistrée entre 19h et 21h. Et on termine par un mot sur la météo de ce dimanche 16 janvier. Il y a encore quelques bandes grisailles en plaine, mais ils devraient se dissiper cet après-midi pour laisser place à un ciel dégagé, comme c'est déjà le cas dans les vallons. Des voiles d'altitude feront ensuite leur apparition en fin de journée et la soirée sera plus nuageuse. Du côté des températures, il fera jusqu'à 4 degrés à Bienne, Saint-Imier et Moutier, 3 degrés à Tavannes, Tramelan et Lanneuville et 0 degré au meilleur de la journée à Chasseral. Je vous remercie de votre fidélité et vous souhaite un bel après-midi.